selon l'évangile de Jean au chapitre 18 que nous avons lu tout à l'heure, et à la fin de ce chapitre, nous voyons cette situation dramatique où il est dit: après avoir dit cela, il sortit, Pilate sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit: je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est comme parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors, de nouveau, tous s'écrièrent: non, pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Alors, la question que je voudrais vous poser ce matin: Jésus ou Barabbas? Jésus ou Barabbas? Aujourd'hui, selon le calendrier grégorien, le calendrier que nous utilisons ici en Occident, aujourd'hui, selon ce calendrier, c'est la fête des rameaux. Et la fête des rameaux nous ramène à cet événement où Jésus entre dans Jérusalem. Pas sur le dos d'un cheval noir ou un cheval blanc. C'est sur le dos d'un petit âneau. Et le verset 15 du chapitre 12 de l'évangile de Jean nous le rappelle: assis sur le petit d'une ânesse. Si nous lisons une partie de ce chapitre 12 de l'évangile selon Jean, donc quelque temps avant Pâques, donc Jésus, au verset 12: le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au devant de lui en criant: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Notons le terme roi d'Israël. Jésus trouva un âneau et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. Alors là, c'est une citation de l'Ancien Testament dans Zacharie au chapitre 9, verset 9. Voilà ce que dit Zacharie: ne crains point, fille de Sion, voici, ton roi vient. Encore, notons bien, ton roi vient. Assis sur le petit d'une ânesse. Les disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Le jour de rameau rappelle l'accomplissement d'une prophétie qui a eu lieu dans l'Ancien Testament par le prophète Zacharie. Et voilà que Jésus entre dans Jérusalem comme un roi d'Israël, non pas assis sur un cheval blanc, mais assis sur un petit âneau, sur un animal sur lequel personne n'est jamais monté encore. C'est ça. Pureté, position. Mais bien sûr, personne n'a rien compris à cette histoire-là. La prophétie de Zacharie était bien loin. C'est pour ça que ce verset 16 nous éclaire quant à la compréhension des disciples eux-mêmes. Mais est-ce que la foule a compris? Ils attendaient un Messie. Mais quel Messie ils attendaient? Un Messie roi qui allait les délivrer de la domination de l'oppresseur qui était à l'époque l'Empire romain. Alors, il criait: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et si nous nous permettons d'aller dans Zacharie, il y a un élément formidable que nous trouvons. Zacharie au chapitre 9 et verset 9. Il est dit, écoutez bien, « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm, les chevaux de Jérusalem, les arcs de guerre seront retranchés et il annoncera la paix aux nations. Il dominera d'une mer à l'autre, ainsi de suite. » Revenons dans Jean chapitre 12. Les disciples donc n'ont rien compris. Mais la citation de Zacharie est une chose, mais il y a aussi une autre citation de l'Ancien Testament qui est donnée dans ce passage de Jean 12 au verset 13. C'est le psaume 118 verset 25. Allons voir ce psaume 118 et verset 25. Zacharie nous parlait d'un roi qui vient en tant que quelqu'un qui délivre, un temps qui va remettre la paix dans un pays troublé. Et dans le psaume 118, verset 25, après on revient dans l'évangile de Jean au chapitre 18. Verset 25, il est dit: Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous bénissons de la maison, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Nous percevons dans le parallèle entre Hosanna et Éternel accorde le salut. Hosanna veut dire Éternel accorde le salut. Nous sommes dans l'oppression. Le peuple crie à Jésus, sauve-nous. Accorde-nous le salut. On a tous tendance, moi en premier, de comprendre Hosanna comme gloire à Dieu, alléluia. Non, Hosanna, c'est un cri d'appel, de secours. Donc ils étaient là en train de proclamer un Jésus reconnu comme le Messie, comme le roi, mais dans l'idée que ce roi-là va les délivrer de l'oppression de l'Empire des Romains. Et nous connaissons tous la suite de l'histoire. Jésus va rentrer dans le temple et renverser les tables des échangeurs, des vendeurs, des commerçants. Mais il n'a pas renversé le pouvoir des Romains. Il est venu faire de la propreté dans le temple, dans les cœurs, mais il n'est pas venu pour faire de la politique. Et je rejoins ce qu'a dit Adrien tout à l'heure. Voilà le Jésus qui s'est présenté à eux. On l'a glorifié, mais ils étaient déçus. Ils ne s'attendaient pas à ce que Jésus applique un autre plan. Alors, maintenant, on revient dans Jean au chapitre 18. Jésus ou Barabbas? Est-ce que nous connaissons ce Barabbas? Il y a un film, je crois, qui a été fait concernant Barabbas. Je ne l'ai pas vu, je ne peux pas vous en parler. À plusieurs reprises dans l'évangile, Pilate dit: voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Jean 18, 39. Dans Matthieu, il est dit: lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Matthieu 27, 17. Dans Marc, il est dit: voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Comme dans Jean. Et dans Luc, il est dit: ils s'écrièrent tous ensemble, fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. C'est un récit où les quatre évangiles s'accordent à nous raconter le récit. Matthieu est beaucoup plus précis et dit: lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Arrêtons un instant sur ce personnage qu'on ne voit que là. Son nom, Barabbas. Bar, qui est l'équivalent de Ben, fils, Abbas, père. Fils du père ou fils d'un père, pas plus. Souvent, les hommes juifs avaient un nom qui était relié avec le nom de leur père. Par exemple, Simon-Pierre est appelé Simon, fils de Jonas. Voilà notre homme Barabbas. Un homme dont le père est plutôt inconnu. Mais nous reviendrons là-dessus. Dans Jean 18, verset 40, il est déclaré comme un brigand, un voleur, quelqu'un qui détrousse les gens. Dans Matthieu 27, verset 16, il est dit: ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Fameux, c'est-à-dire connu, hein. Célèbre, populaire. Mais pourquoi? Dans Marc, c'est un peu plus détaillé. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices. Pour meurtre. C'est un meurtrier qu'ils avaient commis dans une sédition. Alors je suis allé sur internet voir sédition, insurrection contre une autorité établie. C'est-à-dire, c'était un homme qui a osé affronter l'autorité établie. Il a fomenté peut-être un petit groupe. Et comme Robin des Bois, ils attaquaient l'autorité établie. Ils détroussaient les gens. Et à cette occasion, il y a eu un mort, sinon plusieurs. Donc il était un révolutionnaire. Un homme violent, un révolutionnaire, un meurtrier. Dans Luc, il est noté: cet homme avait été mis en prison pour une sédition, donc une insurrection, une révolution qui avait eu lieu dans la ville, dans Jérusalem, et pour un meurtre. Voilà le tableau de notre Barabbas. Mais comme il a osé s'affronter aux Romains, il est devenu un héros, un résistant. Et je dirais même, dans le sens du mot, un messie, quelqu'un qui est attendu pour nous délivrer. Vous comprenez pourquoi je vous ai fait lire le texte dans Jean 12 concernant Jésus. Il était le roi, le messie attendu. On l'a acclamé. Mais Jésus avait un autre plan, pas le plan des hommes. Il semble que ce Barabbas soit entré dans le plan des hommes par cette sédition, cette insurrection, cette révolte, son groupe de résistants, de révolutionnaires. Et voilà, il était le fameux prisonnier. Mais pourtant, revenons un peu à son nom. Barabbas est un homme dont le nom semble manifester qu'il est né d'un père inconnu, qui aurait grandi sans l'autorité d'un papa, qui est devenu un voleur, un brigand, un chef de bande. Il était très populaire car il a osé fomenter une sédition contre l'autorité romaine. À cette occasion, il a tué. Il est devenu un meurtrier. Toutefois, par son insurrection, il est devenu le héros, le résistant, le messie. Il n'a pas été choisi comme cela au hasard pour être sorti de prison. Il avait son cachet. Jésus, que pense-t-on de lui? Déjà, son nom. Le nom de Jésus était un nom très connu. Hein. Il y a eu d'autres Jésus. Mais ce nom veut dire l'Éternel est salut. Rappelez-vous toute l'histoire concernant sa naissance miraculeuse. Vous lirez le premier chapitre de Matthieu. La réalisation de la prophétie d'Ésaïe. Marie, sa mère, reçoit par l'ange Gabriel l'ordre de lui donner ce nom de Jésus, l'Éternel est salut. Mais l'ange Gabriel va rajouter quelque chose à Marie. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et puis il y a bien des choses, si vous voulez. On va lire ce Matthieu chapitre 1er verset 21. Pour rester dans le sens du nom de Jésus. Verset 21. Non, Luc tout d'abord. Verset 21. Matthieu, c'est Joseph. Luc chapitre 1er, verset 30 à 33. Nous avons vu Barabbas. Maintenant, regarde Jésus. L'ange lui dit à Marie: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Un roi dont le royaume est éternel. À Joseph, Matthieu chapitre 1er, verset 21. Donc il demande à Joseph de prendre Marie comme femme. Elle dit, et l'ange dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. L'Éternel est salut, il est roi d'un royaume éternel, il a pour mission de sauver son peuple, non des Romains, mais de ses péchés. Et son cousin, Jean-Baptiste, plus tard va lui dire, en pointant du doigt, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voici ton roi vient, Zacharie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà la situation quant à la personne de Jésus. Il y a d'autres, on peut citer d'autres passages, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. On voit le décalage entre la personne de Barabbas et la personne de Jésus. Ils sont dans deux mondes différents. Mais ceux qui les perçoivent les confondent. Quelles sont les accusations contre Jésus ? Au chapitre 18, verset 30, il y a une réponse des chefs religieux, un peu ironique même, qui dit, où ils répondent à Pilate quand Pilate leur demande « Pourquoi vous me l'amenez ?» De quoi vous l'accusez? Et dans ce verset 18, il est dit, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Jésus est déclaré comme malfaiteur. Brigand, ici, malfaiteur. Quand Anne, ou plutôt Caïphe, demande à Jésus de se déclarer. Le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. Voici, dit le sacrificateur, vous venez d'entendre son blasphème, il mérite la mort. Il est le Christ, le Fils de Dieu. Il le reconnaît, mais les autres ne l'ont pas reconnu. Et il est déclaré comme un blasphémateur. Malfaiteur, blasphémateur. Un usurpateur même d'identité. Dans Luc au chapitre 23, verset 2, l'accusation est un peu plus détaillée. Voilà ce que disent les religieux à Pilate. Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ roi. Et moi, j'ai trouvé intéressant cette accusation. Un homme excitant notre nation à la révolte. Mais il n'y a pas plus révolutionnaire que Barabbas dans ses actes. Jésus, son royaume n'est pas de ce monde, répète-t-il à Pilate. Mon royaume n'est pas de ce monde. » Verset 36 au chapitre 18, répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici, d'ici-bas. » Quelle confusion, quel mélange, quelle, je dirais, une méconnaissance de la personne de Jésus et de son ministère et sa mission. Alors, nous avons lu tout à l'heure la fin de ce chapitre 18 de l'évangile de Jean. Mais regardons un peu les conclusions du gouverneur de la Judée, Pilate. Verset 38, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Matthieu 27, 24, il est dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. » Dans Luc 23, 15, je ne l'ai trouvé coupable d'aucune de ces choses que vous l'accusez, dont vous l'accusez. Et pourtant, verdict final, Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre Jésus, il le livra pour être crucifié. Marc 15, verset 15. Toujours dans l'évangile, selon Jean, au chapitre 18, au verset 14, en parlant de Caïphe, le souverain sacrificateur, il est dit, et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Je vois en cet homme Caïphe, ce religieux Caïphe, un politicien. On va sacrifier quelqu'un pour garder la paix. Et je vois la même chose en Pilate. Vaut mieux que je me plie à la demande de la masse plutôt qu'avoir une révolte dans ma juridiction. Voulant donc satisfaire la foule, Pilate relâcha Barabbas. Voilà l'histoire, la politique, l'influence. Mais je me pose la question, ce Barabbas, ce fils d'inconnu, il n'est pas un peu l'image de beaucoup d'entre nous? Il est devenu populaire à cause d'une action particulière qui a intéressé la foule. Ils ont oublié sa violence. Mais ce Barabbas a sauvé sa peau parce que le Fils du Père éternel, Jésus, est allé jusqu'au bout de sa mission. Il a pris la place de Barabbas. Le Fils du Père, le vrai Fils du Père éternel, Jésus, dont le nom est éternel et salut, ce Christ, le Messie, celui qui va délivrer le monde de son péché, le juste a pris la place de celui qui est injuste. Dans 1 Pierre, au chapitre 3, il nous est dit au verset 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste, pour les injustes. Afin de nous amener à Dieu, il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Les récits bibliques ne racontent plus l'histoire de Barabbas. On ne connaît pas la suite de son histoire. S'est-il approché de Jésus ? S'est-il posé des questions concernant Jésus ? S'est-il dit, mais il m'a sauvé la peau ? Est-ce qu'il est resté dans les environs et entendre le témoignage de ses disciples qui ont déclaré le Christ Jésus est ressuscité, il est vivant, on peut venir à lui, il a vaincu la mort. Et c'est lui qui donne la vraie vie éternelle. A-t-il eu cette occasion ? Nous, aujourd'hui, nous avons cette occasion. Je me rappelle d'une chanteuse chrétienne. Je ne me rappelle plus de son nom. Dans la région de Lyon. Elle a été guérie en tant qu'enfant, je crois, de la leucémie. Plus tard, elle est devenue chrétienne. Et elle a témoigné en disant, « Oui, j'ai été bénéficiaire de la guérison en tant que bébé. » Mais cela, si j'ai été resté là, je n'aurais pas bénéficié du salut éternel. Une bénédiction ne veut pas dire salut. Une bénédiction que nous recevons sur cette terre ne veut pas dire être sauvé. Être sauvé, c'est de suivre Jésus, que Jésus devienne son propre sauveur et son propre Seigneur. Et sur cette terre, beaucoup bénéficient des bénédictions de Dieu. Et ces bénédictions, nous les avons considérées comme venant du hasard. Des choses qui viennent de la chance, j'ai eu de la chance. Ou simplement des choses toutes naturelles. Ça fait partie de la vie. C'est tombé sur moi, mais pas pour toi. Et nous avons même peut-être fait la fête à cause de ces bénédictions, et puis nous les avons oubliées. Si c'est ça notre vie, nous restons des gens qui ne connaissent pas Dieu. Oui, c'est vrai, Dieu est bon. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Ça aurait été formidable que l'histoire ait eu une continuation en disant « Barabbas s'est converti à Jésus ». On ne le sait pas, on ne peut pas interpréter. Mais l'histoire nous parle à nous aujourd'hui. Avoir bénéficié de la bénédiction de Dieu manifeste la bonté de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que je suis sauvé. Il me faut faire ce pas vers celui que nous avons chanté. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Alors, Barabbas ou Jésus ? Le bénéficiaire d'une bénédiction ou celui qui donne la vie ? Que le Seigneur vous bénisse à travers ces quelques réflexions. Amen.